Antonin était fils de Fraiselet, roi de Frédélas, aujourd'hui Pamiers. Devenu prêtre de la nouvelle religion chrétienne, il fut envoyé par le pape Clément Ier avec d'autres missionnaires pour évangéliser les Gaules. Saint-Denis, chef de la mission, assigna à chacun une part du territoire. Celle qui revint à Antonin fut l'Aquitaine. C'est ainsi qu'Antonin arriva chez les Rutènes, un peuple dur, âpre, inculte comme le pays qu'il habitait. Antonin prêcha sans perdre courage. Par sa mansuétude, il parvint à convertir ce peuple sauvage. Fort de cette victoire, plein d'espoir, Antonin poursuivit son chemin, vénéré ici, condamné là. C'est ainsi qu'il arriva dans une contrée souriante, la vallée de Nobleval, extrême frontière du Rouergue, située au confluent de l'Aveyron et de la Bonnette, que l'une sépare du Quercy, l'autre de l'Albigeois. En ce lieu régnait un certain Festus qui sacrifiait aux idoles. Il fut pourtant un des premiers à se convertir à la parole du Christ et devint le disciple d'Antonin. Antonin vivait heureux au milieu d'un peuple heureux. Pourtant, il ne s'accordait aucun répit. Parfois, il accomplissait des miracles. Pourtant, un jour, Antonin décida de partir. Une grande tristesse accabla le peuple. On voulut le retenir. On insista pour qu'il revienne sur sa décision, mais rien n'y fit. Antonin savait que nulle part ailleurs ses efforts ne seraient mieux récompensés qu'ici. Mais à Nobleval, sa mission était accomplie. Antonin partit donc et s'en retourna à Frédélas. À Frédélas, Antonin prêcha l'évangile et renversa les idoles. Mais nul n'est prophète en son pays. Et le prêtre connut le sort des prophètes. Ses compatriotes s'opposèrent à ses prédications. Ils épièrent ses pas, lui tendirent des embûches, jusqu'au moment où ils se saisirent de lui et le traînèrent en le rouant de coups jusqu'aux rives de l'Ariège. Là, un soldat eut le devoir de le décapiter. Mais le bourreau manqua son geste et le glaive coupa le martyr en deux à partir de l'épaule. De telle sorte que la tête et le bras tombèrent d'un côté, le reste du corps de l'autre. Afin que les chrétiens ne puissent pas recueillir et honorer la sainte dépouille, les gentils s'acharnèrent sur elle. Puis ils jetèrent les morceaux au milieu de la rivière avec le dessein de les faire disparaître à tout jamais. Cela se passait le 2 des nones de septembre, dans la première moitié du second siècle. Bien que toutes les précautions fussent prises pour que les reliques du saint ne soient pas récupérées, les fidèles ne se découragèrent pas. Ils attendirent la nuit, puis revinrent près de la rivière. Conduits par l'espérance de retrouver les restes du vénéré martyr, ils échappèrent à la vigilance des soldats et prièrent Dieu d'exaucer leurs vœux. Les eaux se retirèrent pour leur livrer passage et ils purent ainsi, Dieu commandant aux éléments, s'avançait jusqu'aux saintes reliques. Elles étaient là, intactes, unies par le sang que le courant des eaux n'avait pas dispersé. Les fidèles les recueillirent avec respect et leur donnèrent une honorable sépulture selon les rites chrétiens. Cependant, toutes les reliques du saint ne furent pas déposées dans le tombeau élevé près du lieu où il avait souffert. Seul le corps et les membres inférieurs restèrent à Frédélas. Quant à la tête et au bras gauche, des anges les avaient mis sous leur protection. C'est alors qu'apparut une mystérieuse nacelle pour recevoir ces dernières reliques. Les chrétiens et les gentils virent la barque ainsi chargée des précieuses dépouilles descendre le courant de l'Ariège. Elle était tirée par deux aigles aussi blancs que neige, aux ailes déployées comme des voiles. La nacelle entra dans la Garonne. Arrivée à Toulouse, elle s'arrêta, comme si Antonin voulait saluer son ami Saturnin. Puis, elle s'éloigna sur le fleuve. Les reliques descendirent jusqu'à l'embouchure du Tarn, où, se tournant brusquement vers l'Orient, elles remontèrent les eaux de cette rivière. Arrivées au Sola, quelques lieues avant Montauban, elles entrèrent dans l'Aveyron et remontèrent cette rivière jusqu'à Nobleval. La maison de Festus se trouvait sur la rive, à la pointe formée par le confluent de l'Aveyron et de la Bonnette. Ce fut là que la nacelle échoua. Ce jour-là, un des serviteurs de Festus se trouvait près de la rivière. Il découvrit l'étrange apparition. Une lumière se mit à briller. Il comprit tout de suite quel était ce précieux chargement. Il appela ses compagnons. Ensemble, ils coururent prévenir leur seigneur. Quand la nouvelle se répandit, la vallée tout entière tressaillit de ferveur et de joie. Les habitants de Nobleval se rassemblèrent et se prosternèrent autour de ce dépôt sacré. Arrivé parmi les premiers, Festus laissa éclater sa propre joie et son admiration. « Je comprends maintenant le sens caché des paroles d'Antonin. Il m'a demandé une demeure durant son passage parmi nous. Aujourd'hui qu'il règne dans le ciel, il vient me la réclamer pour ses reliques. » Festus ne voulut plus garder pour lui une maison qui avait eu la gloire d'avoir pour hôte saint Antonin. Il la fit consacrer afin qu'elle devienne une église. Avec de grands honneurs, il fit mettre sur l'autel le chef et le bras du martyr, rendant grâce à Dieu et faisant monter vers lui ses louanges et ses bénédictions. Puis les reliques furent enfermées dans une luxueuse châsse devant laquelle les pèlerins purent venir prier et demander miracles de guérison et de justice. De nombreux rois vinrent s'y prosterner. Et voilà la légende de saint Antonin.